J'aimerais ce matin donner suite à le partage que j'ai fait mercredi passé. Je ne sais pas qui était là. Quelques-uns étaient là. Alléluia. Je vais y donner suite. On a parlé de Jean au chapitre 17. Qu'est-ce qui est écrit là? La prière sacerdotale. Donc, Jésus a prié avant de quitter ce monde. Il a prié qu'on soit un. Il a prié pour l'unité. Et Jean 17, à 7 reprises dans le texte, il va dire, il va encourager ses disciples d'être un. Et on a vu que les disciples, les apôtres, ils ont mis ça en pratique. Et on a vu le résultat à travers les actes des apôtres. Donc, les actes des apôtres, on voit que il se faisait beaucoup de guérisons, il se faisait beaucoup de miracles. On voit que l'unité était tellement forte que même ils partageaient entre eux leurs biens. Ils vivaient comme, en commun. Donc, chacun disait que ses biens en particulier ne lui appartenaient pas. Donc, tout était partagé. Et on voit le résultat des actes. Mais si on prend ces choses-là, on voudrait aujourd'hui voir ce qui s'est produit dans les actes, n'est-ce pas? On voudrait voir ça, les miracles, les guérisons. On voit que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et c'était, je vois ça comme une fête. Tu sais, je me dis, waouh, la bonne nouvelle est prêchée partout. Et, mais si on veut vivre ce que les actes ont vécu, il faut qu'on le vive aussi. Et on va voir que, si vous regardez un peu plus loin, lorsque les églises ont commencé à naître, si on se penche un peu sur l'église des Corinthiens, on voit que les choses ont changé. Les gens, ils ne sont plus pareils, vous savez, si on prend Corinthe, Corinthe, c'était une ville où il y avait deux ports de mer, donc il y avait du trafic. Il y avait beaucoup de va-et-vient, il y avait beaucoup de c'était prospère, et c'était une ville grecque, donc il y avait aussi plusieurs dieux grecs. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe? Bien, vous pouvez voir comment est-ce que l'apôtre Paul a dû réagir face aux Corinthiens. Quand ce qu'on disait, il y avait un patois qui se disait apparemment, « Vive à la Corinthe! » C'était un peu vivre comme n'importe quoi. Et on voit, la Bible nous dit ce qui est arrivé à Corinthe. La Bible est claire, n'est-ce pas? Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de... On voit que dans l'église de Corinthe, il y avait des divisions. Il y avait des gens qui vivaient dans l'immoralité sexuelle. Il y avait des gens qui vivaient dans l'ivresse. Il y avait des gens qui vivaient n'importe comment. Et Paul a dû redresser ces choses. Donc, on voit que l'Église des Actes, ce n'est pas long, car, enfin, imaginez-vous, nous autres, on est rendus en 2023. Donc, il s'en a coulé de l'eau sur les ponts, n'est-ce pas? Et on a quelque chose à apprendre de l'Évangile. Parce que l'Évangile va rester l'Évangile, n'est-ce pas? La parole de Dieu est immuable, inchangeable. Et ce n'est pas nous qui peut la changer. C'est elle, il faut qu'il nous change. Amen. Donc, on peut voir que les Corinthiens vivaient des choses. On va lire quelques textes. On va lire 1 Corinthiens 1, 10. Je sais que j'ai donné ma feuille. OK, je l'ai cite. On va lire... Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Donc, on voit que dans l'Église, il y avait des chouchous, des préférés. Certains aimaient mieux Apollos, d'autres aimaient mieux Paul, d'autres aimaient mieux Céphas, et il y avait des préférés. Donc, Paul voit qu'il n'y a pas l'unité. Et il va essayer de redresser cette Église-là. Et quand ce que Paul va s'engager dans ces choses, il va avoir la difficulté. Parce que lorsqu'un mauvais pli est commencé, c'est dur de ramener tout ça, n'est-ce pas? Et les apôtres, les chouchous, c'est que si vous regardez à Corinthe, c'est les Grecs, vous savez, c'est les grands penseurs, les grands intellectuels, c'est ceux-là qui ont des beaux discours. Et ces gens-là, ils n'aiment pas travailler. Ils ne sont pas manuels. Donc, eux, ils vont se donner à avoir les beaux discours éloquents. Puis, essayez d'imaginer, à l'époque, ça, il y avait un genre de prestige pour ces sages. Et il y a même des familles qu'ils vont pousser leurs enfants à côté de, on pourrait dire, ces sages ou ces soltises, pour qu'ils soient eux aussi sages comme eux qui ont... puis eux, il y avait même des débats entre eux, entre les sages. Et tu payais même pour aller voir ça. Donc, on voit que là, il y avait des préférés. C'est là qu'il y avait des préférés. C'est pour ça que Paul va parler d'Apollos, puis il va parler de Céphas, puis il va parler de Paul, puis de Jésus, puis tout le monde. Donc, on voit que Corinthe a besoin d'être redressé. Et c'est ce que Paul va faire. Pour ramener ça comme que c'était dans les actes. Parce que qu'est-ce que dans les actes, ça devrait continuer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les actes des apôtres? Mais il y a quelque chose à faire. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est qu'aujourd'hui, c'est de le renoncement à soi. On vit dans une génération égoïste. Vous savez, quand ce que on regarde, est-ce que vous croyez qu'on est dans la fin des temps? On vit dans l'époque, dans la fin des temps, la roche qui va frapper, qu'est-ce que Daniel a eu comme vision, la petite roche qui vient frapper la statue de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? C'est un royaume qui est inébranlable. Un royaume qui n'aura jamais de fin. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est passager. Mais on vit présentement, oui, dans les temps de la fin, mais Paul nous dit dans 2 Timothée 3, 1, je ne sais pas si on peut l'afficher, « Sache que dans les derniers temps, derniers jours, il y aura des temps difficiles, car... les hommes seront égoïstes. » Et là, Paul va mentionner 19 caractères. Donc, et qu'est-ce qui est en tête de liste? L'égoïste. Donc, l'égoïste, c'est moi. Vous savez, on voit aujourd'hui, paye-toi donc en traite. Et on va placer ça, on va dire, j'ai acheté ça à moi de moi. Donc, le « moi », aujourd'hui, on aime le caresser, on aime, et faut pas s'exclure, ça nous atteint tous. On a tous notre côté égoïste, et la génération qu'on vit dedans nous plonge aussi là-dedans. On appelle ça la génération « selfie ». Vous savez, quand on prend les selfies, on ne les prend pas le matin quand on se lève, qu'on est tout... on les prend quand on, parce qu'on veut donner une belle allure, on veut donner une belle apparence, n'est-ce pas? Donc, l'égoïste, c'est l'individualiste. Et qu'est-ce qui est avec l'égoïste? Il y a aussi l'orgueil. Moi et moi. Aujourd'hui, on peut voir que le moi, il prend beaucoup de place. On l'aime, ce moi-là. Et on ne me dit pas quoi faire. J'aime pas entendre quelqu'un me dire quoi faire. Ding et ding. Donc, lorsque on voit la génération, vous savez, j'étais employeur, j'ai vu des jeunes qui ont commencé à travailler, puis qu'ils ont dit, j'aime pas ça, moi. Ben voyons, tu sais, je m'en rappelle quand j'ai commencé à travailler dans un moulin dehors, sur une run à venir, dans le froid, j'aimais pas ça, mais faut que je travaille. Moi, aujourd'hui, notre génération, c'est pas ça. Si j'aime pas ça, je le fais pas. Est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça? Je connais même quelqu'un qui a étudié 8 ans. Donc, il a été chercher un bac, il a été chercher une maîtrise. Puis quand il est venu pour travailler dans ce domaine, il n'aimait pas ça, il a tourné de bord. Wow! Tu t'es endetté de 100 000 $ puis il y a de quoi que je ne comprends pas. Puis, ben c'est parce qu'on vit dans une génération qui est égoïste. On vit dans une génération que c'est moi. Donc, on pourrait dire que c'est le culte de la personnalité. Vous savez, quand ce que Dieu a dit à Saül, quand il a été roi, il a dit à Saül, parce que quand on a demandé à Saül pour être roi d'Israël, quand Samuel était loin, il était tout surpris de ça. Mais quand il est devenu grand, Dieu va lui dire, quand tu étais petit à tes yeux, tu étais grand. Mais lorsque tu te vois grand, ça a été ta chute. Voyez-vous le danger de l'égoïsme? Voyez-vous le danger de l'orgueil? Bien, ça nous guette tous. Et si on prend... Si on prend le culte de soi. Donc, comme j'ai dit, fais-toi plaisir. Les choses les plus importantes, c'est moi d'abord. Amoureux de soi-même. Le culte de la chair. Et dans Romains 1, ça nous dit... que dans les derniers temps, les hommes ont adoré la créature au lieu du Créateur. Et c'est là qu'on est, bien-aimés. Et j'aimerais ce matin que ce message puisse nous ouvrir les yeux pour qu'on voie le combat qui se passe. Je m'en rappelle, je témoignais à quelqu'un, j'avais donné des versets bibliques sur des cadres, puis je visitais quelqu'un. Puis une journée, j'arrive... Et dans le code, c'est plus le verset biblique qui est là-dedans. Il a marqué, j'ai trouvé l'ennemi, c'est moi. Et là, j'étais comme frustré de ça. Je me dis, voyons, il y a autre la parole de Dieu. Mais ça m'a resté marqué. Et on voit qu'on a beaucoup à apprendre, n'est-ce pas? On a beaucoup à se laisser transformer. On a beaucoup de renoncement à faire de nous-mêmes. Vous savez, on vit un temps particulier. On vit dans une apostasie. Et c'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et où ça commence, l'abandon de la foi, ça va commencer par les églises, n'est-ce pas? Parce que c'est nous autres qui croyons. Donc, l'abandon de la foi, c'est quoi? Ça va plus loin. L'abandon de la foi, c'est que oui, on peut trébucher, on peut tomber, mais tu as l'intention de te relever ou tu as l'intention de... Tu ne perds pas ta connexion avec Dieu. Mais l'apostasie, c'est que tu te détournes de la foi puis tu n'as pas l'intention de revenir. C'est ça l'apostasie. Et on vit dans ces temps-là. Donc la repentance... je vous ai dit la semaine passée, la repentance, c'est aussi pour l'enfant de Dieu. On a besoin de repentance. Et c'est quoi la repentance? La repentance, c'est de se détourner, c'est-à-dire faire demi-tour. Donc, la repentance, c'est aussi pour nous. Oui, on s'est repenti quand on a accepté Christ comme notre sauveur, quand on est devenu la maison de Dieu. La Bible nous dit qu'on est passé des ténèbres à la lumière, qu'on est passé de la puissance de Satan à Dieu. On reçoit par la foi le pardon de nos péchés. Donc ça, c'est la repentance, la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'elle fait de nous? Elle fait de nous des enfants de Dieu. Elle fait de nous le temple de Dieu. Donc, Dieu, il habite pas dans cette maison ici, mais il habite dans chacun de nos vies, par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi que notre corps est le temple de Dieu. Dieu habite en nous, par la foi en Jésus-Christ. Donc, on voit que on peut, si ce n'est pas entretenu, c'est pourquoi Paul va dire, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant louant à Dieu. » Donc, il y a un entretien quand même à faire si on veut marcher et porter du fruit, n'est-ce pas? Donc, il y a un entretien. C'est pourquoi qu'il va dire, « Enivrez-vous pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. » Comment est-ce qu'on peut faire pour se remplir de l'Esprit de Dieu? C'est justement qu'est-ce qu'on fait en matin, se réunir ensemble autour de la parole de Dieu, et de voir des témoignages et des prières qu'on a ensemble et se cultiver un et l'autre. Est-ce que vous savez qu'on peut être à la même place puis pas être à la même place? Il y a des maisons qu'il y a quelqu'un là, mais ils ne sont pas ensemble. On voit que c'est facile aujourd'hui de porter le masque. Mais si on veut porter du fruit pour la gloire de Dieu, il faut enlever les masques, il ne faut pas avoir honte de s'humilier devant le Seigneur et de lui dire, viens me transformer à l'image de ton Fils. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est de rendre chacun de nous à l'image de son Fils. C'est ça le travail qu'il y a à faire. Est-ce que vous avez oublié, est-ce qu'on a oublié, je vais m'inclure, est-ce qu'on a oublié que Dieu a commencé une œuvre en nous? Et que cette œuvre-là, il veut la rendre parfaite, on a besoin de collaborer avec lui. Amen. Et c'est pourquoi il va nous donner le Saint-Esprit. Il dit, il va vous enseigner toutes choses, mais on a aussi une opposition. L'opposition, on a le monde qui marche contraire. Et quand Jésus a marché sur cette terre, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et après, il va dire, vous êtes la lumière du monde. C'est vous le sel de la terre. C'est vous qui donne la clarté. Et c'est pourquoi lorsqu'il va dire dans Jean au chapitre 17, il dit à ses disciples d'être un. Pourquoi? Pour que le monde croit. Pour que le monde voit. Donc l'Église est là pour éclairer les ténèbres, n'est-ce pas? L'Église est la lumière. Mais il dit, prends garde que la lumière qui est en toi devienne ténèbre. Parce que cette lumière-là, tu peux l'éteindre. Dieu nous donne un libre choix. Et cette lumière-là, on a besoin qu'elle brûle de plus en plus parce que les ténèbres sont de plus en plus forts à l'extérieur. On voit que les gens, ils veulent de moins en moins entendre parler de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive avec le peuple de Dieu? Il ne faut pas tomber dans le trap des Corinthiens. Vive à la Corinthienne. Parce qu'on voit qu'est-ce que le masque, le monde a influencé l'Église au début. Qu'est-ce qui a tarni, qu'est-ce qui a freiné l'Église de Corinthe? C'est le monde. Donc, on a à être sur nos gardes dans les temps qu'on vit présentement. C'est pourquoi il va dire, prépare-toi, le prophète Osée va dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'un jour, tu vas y faire face, que tu le veuilles ou non. On va le voir. Donc, j'aimerais avancer. Ce matin, le titre de mon message, c'est le renoncement. Et pour ça, on va aller dans Philippiens. Et encore là, laissez-moi juste donner une petite introduction pour les Philippiens. C'est que Philippe, la ville de Philippe, c'est il y avait des citoyens romains, OK? Et quelqu'un qui avait la citoyenneté romaine, il pouvait s'enfuir avec ça. Et moi, je suis citoyen romain. Donc, ils vont sentir un petit peu d'orgueil avec leur citoyenneté. Et ils vont faire des distinctions. Et c'est là qu'on va voir que la leçon qu'on a à apprendre ce matin, on va avoir des modèles à suivre. Et on va y aller ensemble. On lit dans Philippiens, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Wow! Il y a du travail à faire, n'est-ce pas? Seigneur, aide-nous ce matin à saisir réellement ta parole. Ta parole est la vérité. Aide-nous à mettre ta parole en pratique. Amen. Donc, Paul va dire, ayez en vous les sens, ayez un même, donc il va aller toucher l'unité, et s'il touche l'unité, il faut qu'il touche aussi l'humilité. L'humilité, c'est voir les qualités de l'autre plus haut que les tiens. Si tu cherches les défauts des autres, tu vas vouloir t'élever avec ça. Et ça, on appelle ça de l'orgueil. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité, c'est pas... parce qu'on peut avoir des fausses humilités aussi. Et on peut dire... je ne vais pas rentrer trop en détail là-dessus, mais j'aimerais qu'on puisse aller voir le modèle que Paul va nous donner ce matin dans Philippiens chapitre 2. Et le plus beau modèle que nous avons, c'est Jésus lui-même. Ce matin, j'aimerais apporter la théologie de Noël. Et on va continuer à lire à partir du verset 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, personne ne le fera pour nous. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, il s'est humilié lui-même. Personne ne va le faire pour moi, personne ne va le faire pour toi. L'humilité précède la gloire. Donc, on voit que Jésus ici, il s'est dépouillé lui-même. Il a renoncé à lui-même seul. Donc, il s'est humilié lui-même. Et en s'humiliant, imaginez-vous qu'il a quitté le ciel, c'est-à-dire qu'il a déposé sa couronne, il a déposé sa royauté, il s'est humilié. Et il y a quatre choses que j'aimerais toucher, c'est qu'il a renoncé à sa position de souverain. Il était souverain. Il était là lorsque la terre a été créée. La Bible nous dit que lorsque sur le globe de la terre, il était là avec son Père. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. On voit l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit en un. Et c'est pourquoi il veut répéter ces choses dans l'être humain. On voit l'exemple dans le mariage. Il dit, les deux deviendront une seule chair. Comment tu peux devenir une seule chair s'il n'y a pas le renoncement, s'il n'y a pas l'humilité? Donc, comment arriver à ça? Et pensez-vous que la parole nous demande des choses qu'on ne pourrait pas faire? Si Dieu nous demande de le faire, c'est parce que c'est faisable. Mais c'est faisable, mais ce n'est pas l'égoïste qui va... Et ça va commencer par l'humilité. Ça va commencer par le renoncement à soi. Et quand il y a des enfants qui rentrent dans la famille, Bien là, les parents qui sont ici, qui ont des enfants, vous allez voir que si tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même, tu vas voir que ce petit bout de chou-là, il peut te faire élever à 3 heures du matin, puis c'est lui qui contrôle, n'est-ce pas? Donc, il y a une mort à soi. On voit que la famille, c'est que les choses sont là pour nous faire mourir. Mais la deuxième chose que renoncer, donc la première, c'est sa position de souverain. Il a renoncé à sa personne. Il a renoncé à son caractère. Il a renoncé à ses attributs. Il s'est vidé de lui-même, volontaire. Et il ne faut pas oublier que lui, il était juste, puis qu'il est venu habiter à travers les injustes. Et on sait sa fin. On sait comment ce qu'il a fini. Fait, si lui a été traité injustement, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Parce que de l'injustice, chacun de nous, on va en vivre. Comment est-ce que tu réagis face à l'injustice? Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on voit qu'Étienne a dit la même chose. Dans la persécution, dans l'incompréhension, quand tu sais que tu as la vérité, imaginez-vous d'être à la place de Jésus, tu sais que tu l'as la vérité, tu sais comment est-ce que le monde est tout fait, tu es le créateur, et tu te fais traiter injustement. Tu connais la vérité, tu es la vérité. Et il renonce à ces choses. La vie, c'est pas rose pour tout le monde. Laissez-moi vous partager l'injustice, le renoncement, lorsque tu es accusé faussement, lorsque tu es traité injustement, lorsque tu es traité, mais tu sais que tu as la vérité. Qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car Dieu dit, c'est à moi la rétribution, c'est à moi la vengeance, dit le Seigneur. Pas facile de donner ça au Seigneur lorsque ça te fait mal. Pas facile de donner ça à Dieu lorsque ton cœur, il saigne. Dis, Seigneur, prends-la. Mais si tu le fais, laissez-moi vous dire qu'est-ce qui va arriver. Si tu le donnes à Dieu, dis, Seigneur, prends-la, parce que si moi je le garde, je vais me faire mal avec ça. Parce que je connais ma nature. Et si je te le donne, et que tu vois la main de Dieu agir pour toi, c'est là que tu vas apprendre à prier pour ton ennemi. Tu dis, Seigneur, arrête. Donne-lui une chance. Vous savez, quand ce que Moïse, Dieu a envoyé une plaie, puis Moïse, on voit Moïse, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dit à Aaron, cours vite au sacrifice. Dieu a ouvert la terre. Il y a 32 000 personnes qui ont tombé dans le trou. Dieu dit à Moïse, tasse-toi. Puis lui, il essaye d'apaiser la colère de Dieu parce qu'ils avaient placoté contre lui. Voyez-vous, on a quelque chose à apprendre dans le renoncement. On a quelque chose à apprendre dans l'humilité. Tu veux être grand? Sois humble. Tu veux être grande, humilie-toi. Pas facile. Mais, comme qui a été dit, c'est pas ta puissance, puis c'est pas ta force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par son esprit. Il dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant. Essaye pas de le faire toi-même. Essayons pas. Tu pourras pas. Mais par mon esprit. Seigneur, prends-la. Donc, il a renoncé à sa souveraineté, lui. Il a renoncé à sa personne. Il a renoncé à son caractère. Il a renoncé à ses attributs. Il s'est vidé de sa gloire, de son honneur. Il a été méprisé. On le voit dans Ésaïe 53, n'est-ce pas? Ça dit qu'il n'y avait pas de beauté. On va le lire à partir du verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. On le connaît. On sait qui ce qu'il était. On sait de qui ce qu'il parle. l'injustice. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Et là, point ouvert la bouche. Ding et ding. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et par ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Il était juste, il était sans péché. On a mis son sépulcre. Tiens, c'est là que tu vas. Son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y a point de fraude dans sa bouche. Le renoncement, ce n'est pas une chose qui est facile à faire. L'humilité, ce n'est pas toujours facile de laisser à dire, et essaye pas de gagner. Essaye pas de te justifier toi-même, même si tu as raison. C'est ce que la Bible nous encourage de faire. C'est ce qu'il a fait. Parce que lui, il aurait pu invoquer des légions d'anges qui auraient réglé le cas à tout le monde. Puis à nous autres, tout, il nous l'aurait réglé notre cas parce qu'on n'avait plus d'espérance. Parce qu'il y a une seule espérance dans ce monde-ci, c'est que parce qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité pour nous. Donc, dans son humilité, regardons comment est-ce que le Père a réagi de voir son fils se faire maltraiter comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? On peut lire à partir du verset. Non, on va revenir en Philippiens. Regardons au verset 8. À partir du verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Et c'est là, écoutez bien ça. C'est pourquoi. Regardez le résultat de son humilité. Regardez le résultat de son renoncement à tout ce qu'il avait déposé. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et laissez-moi faire une petite parenthèse ici. C'est le meilleur verset, je pense, parce que je me rappelle, il y avait des témoins de Jéhovah qui avaient venu chez nous. Puis j'ai dit, on ne va pas aller loin. Je vais vous demander une chose. Est-ce que tu es prêt de mettre tes genoux devant Jésus? Si Jésus serait ici aujourd'hui, est-ce que tu es prêt de mettre tes genoux devant lui puis de l'adorer puis de lui donner gloire? Jésus est Dieu. Jésus était parfaitement, était Dieu, homme et était Dieu. Donc, il y a beaucoup de théologies aujourd'hui qui vont essayer de bifurquer. Alors, Jésus, quand il était chair, il n'était pas Dieu. Jésus était Dieu, et Jésus est Dieu, et Jésus va rester Dieu. Donc, les témoins vont dire, si tu n'es pas prêt de mettre tes genoux en avant de lui, là, un jour, tu vas le mettre quand même. Puis, tu ne le mettras pas de force. Je ne crois pas que Dieu va forcer tout le monde à se mettre à genoux devant lui. Mais c'est mettre ce que tu le vois dans sa gloire. Mettre ce que tu le vois tel qu'il est. Mais est-ce que tu le vois, le couronné de gloire, automatiquement, tu vas fléchir les genoux devant lui. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen ici ce matin? Donc, on voit le nom que Dieu lui a donné, qui est au-dessus de tout nom, et qu'un jour, tous genoux vont fléchir devant lui. Il va dire, ouais, Gaétan, c'est bien beau, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui a fait ça. On va aller voir quelqu'un, que c'est un être humain comme moi et toi, et qu'il l'a fait. Quand est-ce que Paul est rentré à Corinthe, au lieu d'aller chercher pour être le message le plus éloquent, avoir le prestige, est-ce que vous connaissez l'apôtre Paul? Est-ce que vous connaissez ce que Paul a étudié? Est-ce que vous connaissez tout ce que Paul a vécu en tant que pharisien? Est-ce que vous savez que Paul a étudié avec Gamaliel, le plus grand de l'époque, pendant 8 ans? Est-ce que lorsque Paul était pharisien et on a les Sanhédrins, vous savez, il y avait plusieurs classes, il y avait plusieurs grades, OK? Mais les Sanhédrins qui étaient au top, OK? C'est un comité, et eux, ils pouvaient même influencer l'empereur. Donc, imaginez Paul qui est assis là. Parce que Paul était dans ce groupe. Et j'aimerais qu'on puisse lire Philippiens, juste un petit peu plus loin, 3. Philippiens 3. Je ne sais pas si je te l'ai donné. C'est ça. Il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour, donc parfait, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, tant qu'à la loi, pharisien, quant au zèle persécuteur d'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Excusez, monsieur. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Aïe, aïe, aïe. Le bulldozer, il a passé dessus, il l'a écrasé. Le renoncement de soi. L'humilité. C'est pourquoi que Paul va rentrer à Corinthe. Puis il ne fera pas comme les autres. Il va prêcher, oui, mais il va s'en aller faire des tentes. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je la regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il a renoncé à tout et d'être trouvé par lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Transformé. Transformé. Comment qu'il a été transformé? Par le renoncement, par l'humilité. Si que Jésus l'a fait, si que Paul l'a fait, c'est à notre tour de le faire. Non par notre force, ni par notre puissance, mais par son esprit. Et pour lui, parce que Paul avait les yeux fixés sur les choses d'en haut et non pas celles qui étaient sur la terre. La parole nous dit, ramassez-vous des trésors pour le ciel. Tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes? Montre-lui aujourd'hui. C'est le temps ou jamais de montrer à Dieu que tu l'aimes, à renoncer au péché, à renoncer à tout, pour lui. La Bible dit, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur pour le Seigneur, non pour les hommes. L'humilité, être semblable à lui. c'est l'œuvre que Dieu veut faire dans chacun de nous. C'est l'œuvre qui a commencé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui dit. L'œuvre que Dieu a commencé en chacun de nous, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils. N'est-ce pas? Il nous a équipés pour le faire aussi. Vous savez que le monde a leur façon de vivre et l'Église a sa façon de vivre. Les gens dehors, ils cherchent quoi? Ils cherchent à remplir un vide qu'ils ne pourront jamais remplir, que tu sois riche à déborder. Le monde n'a pas l'amour. Parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui est amour. Tu veux avoir l'amour, cherche Dieu. C'est Dieu qui est l'amour. Donc, aujourd'hui, on cherche la joie. La joie est en Dieu. Aujourd'hui, on cherche la paix. La paix est en Dieu. Dieu nous a équipés pour qu'on vive ces choses et qu'on soit dans l'abondance. Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. L'abondance de Dieu, ça me souvient, j'aime bien penser, c'est que je connaissais quelqu'un qui avait, il avait ta chasse, puis il demandait au Seigneur, donne-moi-en un petit, tu sais, désespéré, donne-moi-en un petit. Et il avait pogné un orgueil de 1335 livres. Il dit, j'ai demandé ça au Seigneur, puis il dit, il m'a donné ce tia. Alléluia! L'abondance de Dieu, les graines de Dieu. Donc, je reviens à mon texte, je reviens au message. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Ce n'est pas produit par l'être humain, c'est produit par Dieu. Et ce fruit-là, c'est ça que Dieu veut produire en nous. Il veut produire en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, mais aussi la maîtrise de soi. N'oubliez pas la maîtrise de soi. C'est le produit de Dieu. Et c'est un fruit, n'est-ce pas? C'est le fruit de Dieu. Et le fruit de Dieu, est-ce que le fruit, c'est pour toi? Est-ce que lorsqu'un arbre porte du fruit, est-ce que c'est pour l'arbre? Non. C'est pour les autres. C'est pourquoi qu'il va dire, aimez-vous les uns les autres. Ah, ben, vous dire, ouais, mais ça fait longtemps qu'on entend ces choses. Mais laissez-moi vous dire ce matin, que ça a besoin d'être rafraîchi, de s'aimer les uns les autres, comme qui nous a aimés. Il ne faut jamais oublier ces choses. Est-ce qu'on est prêt ce matin à vivre et accepter de s'humilier? Est-ce qu'on est prêt à vivre de l'injustice, de subir ça? Est-ce que vous comprenez, vous, comment est-ce que ça se fait que les apôtres sont contents d'avoir fait de la prison? Si on regarde quand ce que Paul écrit l'épître aux Philippiens, il était en prison. Et on dit que cette épître-là, c'est l'épître de joie. Ding, ding. Bien-aimé, on a des leçons à apprendre, n'est-ce pas? On a du travail à faire. La vie, c'est un combat. C'est un grand combat, la vie. C'est pourquoi que lorsqu'on lit les sept églises de l'Apocalypse, il va dire, à celui qui vaincra, je donnerai. Regardez les sept. Vous allez voir qu'il y a des combats là-dedans. C'est plein de combats. Mais il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et Paul va nous encourager à y aller jusqu'au bout. On dit, oui, le Seigneur est proche, le Seigneur est à la porte. Comment est-ce qu'on veut que Dieu nous trouve quand est-ce qu'il va arriver? Alléluia. Donc, bien-aimé, je sais que je n'ai pas suivi mes notes, mais j'espère que le message a sorti quand même. Mais j'aimerais juste résumer un peu vite. Jésus a demandé d'être un. On voit que dans les Actes, on voit qu'ils ont vécu ça. Mais on voit que dans les Corinthiens, ils n'ont pas vécu ça. Ils ont vécu dans le désordre. Et le désordre, on voit que Paul va les appeler à la repentance. Donc, je vous ai dit que la repentance, c'est aussi pour nous. On voit que quand ce que Zachée s'est converti, quand ce que Jésus a dit à Zachée, il faut que je mange aujourd'hui avec toi dans ta maison. Et qu'est-ce que Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, à ceux que j'ai volés, je vais lui donner 4 fois plus. On voit que la repentance, il y a des gestes. On veut vivre les actes des apôtres. On veut voir nos familles venir au Seigneur. Il ne faut pas agir comme eux. Il faut être la lumière dans ce monde. Il faut être différent des autres. C'est malheureux qu'aujourd'hui, que le monde entre dans l'Église. C'est malheureux parce que c'est l'Église qui est la lumière du monde. Si la lumière devient ténèbre, comment est-ce que ça va être pire, les ténèbres? Est-ce qu'on a l'amour pour les perdus? Est-ce qu'on a encore une soif de voir des gens venir passer des ténèbres à la lumière? Est-ce qu'on aimerait voir nos familles être sauvées? Il faut agir différemment des autres. C'est pourquoi, quand je m'ai converti, c'est pas parce qu'on m'a présenté l'Évangile. C'est parce que j'ai vu quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Parle-moi pas de ça, mais parle-moi juste de ce qui est arrivé dans ta vie. Pourquoi que ton visage, il est souriant? Pourquoi ton visage, il est tout éclairé tout d'un coup, puis tu dis, mais là, tu guettes, tu sais, tu dis, à un moment donné, il va changer, il va revenir nous trouver. Mais non, il allait de gloire en gloire. Parce qu'il y avait quelque chose. Tu voyais la paix. Est-ce que les gens du dehors qui sont sans paix, est-ce qu'ils voient la paix sur ton visage? Est-ce qu'ils voient la paix lorsque tu passes à travers l'épreuve, qui dit, ouais, mais juste tu prends ta force pour vivre à travers ça. Le Seigneur est notre force. C'est son esprit en nous. Il dit, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'églises qui ont des conflits. Et si vous regardez chaque conflit, c'est que vous allez voir que c'est que dans le conflit, c'est que mes intérêts ont poté. Mes intérêts ont poté rencontrés. On voit l'égoïsme. Regardez les conflits. C'est ses intérêts qu'on peut rencontrer. J'aimerais conclure ce message ce matin, mais j'aimerais qu'on se place devant Dieu. J'aimerais qu'on soit sincère devant Dieu. Et de dire comme David, sonde-moi, ô Dieu. Est-ce qu'on peut pencher la tête ensemble? Sonde-moi, ô Dieu. Tu vois mon cœur, Seigneur. Tu vois mes pensées, Seigneur. Tu vois ma réaction. Tu vois ma peine aussi. Tu vois ma douleur. Tu me connais, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, je veux être comme Jésus qui a déposé tout son caractère, toute sa position de souverain, toute sa personne, tous ses attributs. On le voit aussi à travers Paul, tout ce qu'il a renoncé et tu les as élevés. Alléluia, Père, ce matin, nous sommes devant toi, Père. Tu nous connais, Seigneur. C'est toi qui nous as fait, Seigneur. Mais ce matin encore, ce matin, sonde-moi, ô Dieu.